L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous avez sans doute tous en tête l'urgence écologique, en tout cas plus ou moins. Et aujourd'hui, on va parler de cette urgence écologique d'une manière un peu différente. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Grégory Pouy. C'est vrai que j'ai arrêté de me présenter sur mon podcast, mais voilà. Et j'essaye d'analyser la manière dont la société évolue à travers Volant. Et donc aujourd'hui, on va parler écologie et on va parler surtout d'écosophie, qui est un concept que je connaissais pas. Je reçois Mickaël Andrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire, que j'ai déjà reçu sur ce podcast, pour parler de ce concept qu'est l'écosophie et de parler de notre rapport à la nature que j'avais déjà envisagé avec un autre sociologue qui s'appelait Stéphane Hugon. On va parler du rapport à la nourriture, sujet que j'avais abordé avec Isabelle Saporta d'ailleurs, dans un épisode précédent. Donc on va parler de tous ces éléments-là autour de la nature et éventuellement de trouver des solutions, un changement culturel pour envisager ce rapport à la nature de manière différente. Donc voilà, c'est une conversation assez courte, mais vraiment intéressante, et je vous laisse l'écouter. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec Mickaël Andrieux, que j'ai déjà reçu sur le podcast, qui est un sociologue des futurs souhaitables, de l'imaginaire, et je voudrais qu'on parle un peu d'écologie, du rapport à la nature. J'avais déjà reçu Stéphane Hugon, qui est un autre sociologue avec lequel tu travailles sur ce rapport à la nature. Et toi, tu m'as parlé d'écosophie, qui est un concept que je connaissais pas. Est-ce que d'abord, tu peux expliquer ce que c'est que l'écologie et ce que c'est que l'écosophie?
Peut-être la meilleure manière de voir les deux, c'est de commencer par ce qui est quotidien et qu'on connaît bien, c'est l'écologie. L'écologie, donc éco, logie, le discours, c'est-à-dire la manière par laquelle on va parler de la nature. La nature au sens la maison, c'est-à-dire ce qui nous entoure dans son ensemble. Et c'est ce côté parler qui est un peu embêtant parce que l'écologie, c'est un discours sur ce qui nous entoure. Donc le plus important dans l'écologie, c'est de faire état qu'il y a un objet, la nature, avec laquelle il faut bien vivre. L'écosophie, étymologiquement, on retrouve ce beau sophie de la sagesse, de la connaissance qu'on va trouver dans la philosophie. Et cette connaissance de la maison, cette connaissance de ce qui nous entoure, essaye, justement par ce mot, de faire une différence entre une volonté politique, il faut maintenant parler de quelque chose dont on n'a pas assez parlé pendant longtemps, c'est-à-dire la nature qu'on a mis de côté, à quelque chose qui essaye de dire de manière beaucoup plus tendre, il va bien falloir maintenant vivre avec, dans et parmi la nature qui nous entoure.
Qui est finalement une vieille sagesse, parce que le fait de vivre avec la nature, enfin, je veux dire, à moins d'ignorer qu'on est des animaux, bon, tout le monde n'est pas vraiment très conscient qu'on est des animaux parce que ça nous ramène à une situation qu'on n'a pas envie de regarder, peut-être. mais on est obligé de vivre avec la nature.
C'est peut-être non seulement une vieille sagesse, mais aussi un truc un peu réactionnaire. L'écologie intervient peut-être à un moment où on se rend compte qu'on s'est vraiment distancié de ce que, pendant des milliers d'années, le rapport de l'homme à la nature avait été. Et je pousse même l'idée un peu plus loin en disant que pendant ce qu'a été la modernité européenne, donc on peut dire que ça commence au XVIIe siècle, grandement structuré au XVIIIe siècle, victoire du XIXe siècle, flamboyance du XXe siècle, effondrement aujourd'hui. Pendant cette modernité européenne, le rapport de l'homme à la nature a été très prédateur. On a voulu dominer la nature. Une forme de victoire de l'homme sur son environnement était justement de l'assujettir. Et donc l'homme s'extrait de la nature, il n'est pas un animal, il est une espèce supérieure. Et la nature à côté, c'est un objet dont on va faire ce qu'on veut, dont on va disposer. C'est exactement donc une ressource naturelle, une ressource. La nature n'existe que si on peut aller puiser des choses chez eux. Et aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres manières de s'entretenir avec elles, pour une raison très bête, hein. C'est qu'on s'est rendu compte que celle d'avant ne marche pas. Les indices se multiplient autour de nous pour nous dire que là, on n'a pas réussi quelque chose. Ouais.
Et du coup, ce que tu me disais, c'est que l'écologie aujourd'hui, elle est très punitive, c'est-à-dire qu'en fait, naturellement, quand on dit aux gens, enfin, tout le monde plébiscite un peu l'écologie, mais en réalité, enfin, plus ou moins d'ailleurs, mais en fait, dès qu'il s'agit de modifier leur mode de vie, ben, ils sont plutôt contre, dans le principe. C'est-à-dire les routes à 80 km/h dont on a parlé la dernière fois, mais ça peut être n'importe quoi. J'imagine que si on dit aux gens, ben, en fait, tu vas plus pouvoir prendre des douches à l'heure que tu veux, ou tu n'auras pas d'eau chaude à l'heure que tu veux, ou tu vas devoir arrêter d'utiliser un lave-vaisselle, j'en sais rien, enfin, peu importe, même si le lave-vaisselle, en l'occurrence, utilise moins d'eau que la vaisselle. Mais l'écosophie, finalement, c'est une autre démarche qui est beaucoup plus positive.
Ouais, c'est une démarche tout autre. C'est un esprit. De la même manière que l'écologie est un esprit, l'écosophie est un esprit. Donc en fait, ça va précéder tout un ensemble de gestes, de manières de faire, de manières de penser. Voilà. Donc c'est pas un programme, hein, l'écosophie, comme l'écologie n'en est pas un. Mais le programme de l'écologie, c'est de ramener la nature dans le discours public. Flûte, on n'en a pas assez parlé. Maintenant, il va falloir quand même que ça devienne quelque chose dont il faille qu'on parle. L'écosophie, l'esprit, est de dire, attendez, l'homme ne fait pas la figure forte du haut de la pyramide dans laquelle la nature se trouve, mais il est entouré par un certain nombre de bandes dans lesquelles on va trouver le règne végétal, le règne animal, lui-même est une espèce, et puis il y a d'autres trucs dont on ignore comment ça marche. 70% des fonds marins restent inexploités et inconnus.
Et inconnus surtout.
Donc, et cette fascination se développe aujourd'hui. Donc il n'est qu'une partie de ce truc-là. Pour dire ça, on utilise ce mot qui nous permet de rappeler que cette sagesse de la maison, qui n'est pas performative, ça veut dire qu'on veut pas faire des choses, c'est uniquement une connaissance. Donc ça te rappelle à toi, n'oublie pas quand tu agis dans ta vie quotidienne, n'oublie pas quand tu consommes de l'eau, n'oublie pas quand tu prends ton bain, n'oublie pas dans les gestes très quotidiens, quand tu recycles ou que tu recycles pas, que ceci a un impact qui va te dépasser, beaucoup plus large. Or, on a perdu, il me semble, progressivement dans cette phase d'industrialisation qui a été très forte du siècle dernier, le sentiment que nos gestes avaient un impact sur ce qui nous entoure. Tu peux prendre l'exemple du plastique, par exemple. C'est extraordinaire. On te dit, nous produisons une matière qui ne pourra pas se dégrader. Et on l'a su très vite. Mais pourtant, on en a produit. Et quelqu'un a dû se dire à un moment donné, oui, mais que se passe-t-il si on produit en grande quantité une matière qui ne pourra pas se dégrader? Et il a dû aller se coucher tendrement dans son sommeil en se disant, ça n'est pas grave, quelqu'un d'autre pourra se charger de ce problème. C'est un peu fou de penser comme ça. Et puis la multiplication de 7 personnes par millier, par millier, par millier, produisent aujourd'hui tout le discours qu'on a sur les microparticules de plastique qu'on avale, qu'on respire, qui sont dans l'eau, etc. Donc le rapport de l'écosophie te dit juste, attends, si tu produis quelque chose qui n'est pas comme étant ton déchet, par exemple l'alimentation de quelque chose d'autre, alors mécaniquement, à un moment donné, tu vas te retrouver dans une impasse.
C'est ça. Forcément. Mais tu me disais aussi que dans l'écosophie, tu peux avoir une vision positive du geste au quotidien.
Bah, si tu veux, l'écologie est punitive parce qu'elle se développe à un moment où c'est trop tard. Tu as le sentiment que cette industrialisation très forte des années 20 produit plus de biens qu'on en a besoin, que par conséquent, elle sature les